RCF. Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Anne Kerléo.
Bonjour, et on parle médias et écologie, journalisme et écologie ce matin jusqu'à 10h. Dans la première partie de cette émission, on va se demander comment informer à l'heure de l'urgence écologique. Et puis en deuxième partie, on vous propose de réentendre une émission de Melchior Gormand du 31 octobre dernier sur la désinformation autour des enjeux écologiques, notamment via les réseaux sociaux. Mais tout de suite, le standard, enfin pas tout de suite d'ailleurs, bientôt, puisque notre standardiste est dans les bouchons, si elle nous entend, on l'encourage, on lui dit que ça va bien se passer, qu'elle va finir par arriver. Et vous pourrez donc, quand je vous donnerai le top, contribuer à la première partie de l'émission sur la manière d'informer à l'heure de l'urgence écologique. Face à l'urgence absolue de la situation, nous, journalistes, devions modifier notre façon de travailler pour intégrer pleinement cet enjeu dans le traitement de l'information. Cette phrase est extraite de l'introduction de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, un texte publié en septembre 2022. Et cette charte proposait aux journalistes une liste de 13 invitations concrètes. Alors, j'en cite quelques-unes. Traiter le climat, le vivant et la justice sociale de manière transversale, faire œuvre de pédagogie, enquêter sur les origines des bouleversements en cours, révéler les stratégies produites pour semer le doute dans l'esprit du public ou encore informer sur les réponses à la crise. Alors cela révèle à la fois le désir de toute une partie de la profession de proposer une information à la hauteur des enjeux et capable d'aider la société à se transformer, et en même temps cela révèle l'immensité de la tâche et les difficultés que rencontrent les médias pour se réformer à la hauteur de ces enjeux. Et grâce à cette charte, et grâce à la prise de conscience croissante de la société, de la nécessité d'aller vers une vraie transformation écologique, les choses avancent, mais les critiques adressées aux médias demeurent, et le sentiment d'inachevé, voire d'impuissance des journalistes qui travaillent sur l'écologie aussi. Alors comment faire? Quelles pistes pour avancer? Venez contribuer à nos échanges, vous qui nous écoutez, faites-nous part de la manière dont vous percevez ce travail des médias dans le contexte de l'urgence écologique. Qu'est-ce qu'ils font bien? Ou alors, où sont-ils moins bons? Où sommes-nous moins bons, voire pas bons du tout? Qu'est-ce qu'on devrait faire de plus? Ou au contraire, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Comment les médias pourraient mieux contribuer à la transformation écologique? Eh bien, venez nous faire part de votre perception d'auditeur, d'auditrice, lecteur, lectrice, téléspectateur, téléspectatrice. Vous laissez vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr, dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis, et puis vous venez à l'antenne bientôt au 04 60 12 38 20 23.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et trois intervenants viennent nous aider à réfléchir à ces questions ce matin. Alors la première, on la connaît bien, c'est vous, Florence Gault, bonjour.
Bonjour Anne.
Vous avez été journaliste à RCF. Aujourd'hui, vous êtes journaliste indépendante spécialisée sur les enjeux de la transition écologique et solidaire. Vous avez lancé il y a quelques mois le podcast En un battement d'ailes. Vous êtes l'auteur d'un mémoire qui a pour titre Les médias face à l'urgence écologique vers un journalisme de solution. Et on découvrira tout à l'heure ce journalisme de solution qui est sans doute l'une des pistes pour répondre à toutes les questions qu'on se pose ce matin. Vous êtes d'ailleurs formatrice certifiée par le Solution Journalism Network. C'est en français le réseau du journalisme de solutions. Avec nous aussi Aurélien Brest, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Vous êtes diplômé en psychologie cognitive et en philosophie des sciences, doctorant en psychologie sociale à l'Université de Bordeaux. Vous travaillez, vous me dites si je dis des bêtises,
c'est tout à fait ça.
Vous travaillez sur les mécanismes qui conduisent les individus à diffuser des fausses informations sur les réseaux sociaux. Et puis avant en 2019 jusqu'à 2021, vous avez été chargé de recherche à la Fondation Descartes et vous avez collaboré avec le sociologue Laurent Cordonnier qui a mené pour cette fondation une étude sur le thème information et engagement climatique, et je pense que vous allez nous en parler au cours de cette émission.
Oui.
Et puis, doit nous rejoindre, je crois qu'on a des petits soucis pour l'instant, doit nous rejoindre Christophe Anus, qui est journaliste lui aussi et éditeur, qui dirige les éditions Nautilus consacrées à la mer, à l'environnement, à l'exploration, et puis qui est, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement ce matin, le vice-président de Reporters d'Espoir. Reporters d'Espoir, c'est une association pionnière du journalisme de solution, puisque depuis 2003, elle travaille avec les journalistes et les médias à affiner, expérimenter et développer le journalisme de solution en France, en Europe et dans le monde. On espère qu'il va nous rejoindre bientôt, Christophe Agnus. Merci à vous tous de venir nous éclairer. Puis on accueillera, je ne vous la présente pas tout de suite, mais une invitée surprise à peu près à mi-parcours de l'émission. Mais tout de suite, pour nous donner du grain à moudre et pour entrer dans le sujet, on va commencer par écouter la chronique Tout est lié d'Alexandre Poidatz. Bonjour Alexandre.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et tous.
Alors vous avez choisi de commencer cette chronique par une petite histoire.
Deux amis sont attablés à un bar. Le premier demande « C'est quoi le mal de notre époque ? L'ignorance ou l'indifférence ?» L'autre lui répond « Je ne sais pas et je m'en fous. » La bonne nouvelle est que nous n'ignorons plus l'urgence climatique. C'est difficile de passer à côté. Les médias s'en emparent de plus en plus, les cursus universitaires multiplient les enseignements dédiés, les formations comme la fresque du climat foisonnent. Certes, pas assez vite et parfois avec du greenwashing, mais il y a de quoi se réjouir. Ainsi, la très grande majorité des Français, plus de 80%, savent que le réchauffement est bien causé par l'activité humaine. Mais il y a un paradoxe. La prise de conscience n'est que théorique, car en pratique, rien ne change. On consomme davantage et le pouvoir d'achat reste la priorité face à l'urgence climatique qui arrive en deuxième. Donc, les personnes ne sont plus ignorantes des effets du réchauffement climatique, mais elles ne changent pas leur attitude pour autant. Et donc reste indifférente.
Alors comment, de votre point de vue, dépasser cette indifférence ?
La première piste serait psychologique et individuelle. Les personnes n'entrent pas par la bonne porte de la transition écologique. Il y en a qui vont se mettre en mouvement par la raison face aux constats scientifiques, on pourrait dire que c'est la porte Jancovici, d'autres par le cœur face aux injustices, la porte Greta Thunberg, et d'autres encore par l'âme face à la destruction de la nature qui revient à détruire la création, la porte Pape François. Peut-être que ne pas prendre la bonne porte mène à l'indifférence. Mais je ne crois pas à la seule explication psychologique individuelle pour expliquer cette indifférence. Je crois avant tout à une raison collective, politique. Je m'explique. Utiliser les sciences naturelles pour comprendre la crise climatique est une première étape nécessaire. Elle permet de lutter contre l'ignorance. Mais si on dit à chaque citoyen qu'il doit réduire son empreinte carbone sans distinction, alors on crée quelque chose de pire.
Qu'est-ce qui peut être pire que l'indifférence ?
Le rejet de l'écologie. Si l'on tient chacun pour responsable de la même manière, cela ne crée pas seulement de l'indifférence chez les plus précaires, cela crée du rejet. On l'a vu avec les gilets jaunes. On ne peut pas rester neutre face à une réduction des émissions. Il faut accepter que certains devront faire plus d'efforts que d'autres. Sinon, on continue de culpabiliser la majorité de la population, et en particulier les plus précaires. C'est par exemple le cas du gouvernement qui fait des campagnes pour inciter tous les citoyens à réduire leur chauffage, alors que 6 millions de Français sont en précarité énergétique. Il est possible de responsabiliser en déculpabilisant la très grande majorité. Il est possible de faire peser le poids de la transition sur les plus aisés. Il est possible de parler du climat sans avoir l'impression d'enlever à celles et ceux qui ont le moins. Le mal de notre époque ne serait pas seulement de continuer à faire face à l'indifférence de la crise climatique, ce serait de poursuivre à nourrir le rejet de l'écologie.
Merci Alexandre. Et pour ceux qui voudraient réécouter votre chronique pour bien entrer dedans, bah c'est tout à fait possible. Elle est en réécoute sur le site rcf.fr. Alors voilà qui nous permet d'entrer de plein pied dans le sujet. Peut-être qu'on peut commencer par une réaction de chacun d'entre vous. Florence Gaud d'abord, dans cette chronique d'Alexandre Poidatz, qu'est-ce qui a retenu votre attention ?
Il y a plein de choses qui ont été dites qui mériteraient de pouvoir être détaillées. Mais effectivement, la première chose, je pense que c'est toute la question autour de comment on arrive à susciter l'engagement des citoyens sur ces enjeux-là qui, effectivement, sont anxiogènes, qui peuvent faire peur. Donc, il peut y avoir une envie de déni, d'évitement, de ne pas voir la réalité en face, celle où on ne se sent pas concerné. D'autres, au contraire, qui disent... ça a été très bien dit par Alexandre, comment notamment dans les plus précaires on suscite la réflexion autour de ces sujets-là. Il y a aussi la question des émotions, quelles émotions on suscite chez les gens face à ces enjeux. La peur peut être source de motivation, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. En revanche, trop d'anxiété, trop de peur peuvent conduire à ces situations de déni et d'évitement. Et donc, je pense que c'est bien là toute la question, et y compris, moi, c'est ce qui m'intéresse interroge beaucoup dans le rôle et la place des médias sur la manière d'aborder ces questions pour qu'elles ne soient pas trop anxiogènes. Il faut montrer la réalité et l'urgence de la situation sans pour autant tomber dans quelque chose qui fait beaucoup trop peur et qui donc conduit à l'immobilisme parce qu'on n'a pas forcément envie de savoir que la planète va se détruire avec toutes les images un peu cataclysmiques qu'on peut voir très régulièrement à la fois dans les médias mais aussi dans les films, dans les séries ou ce genre de choses.
Et la pointe de la chronique d'Alexandre, c'était vraiment l'insistance sur la manière dont ceux qui ont le moins de moyens peuvent recevoir un discours qu'ils perçoivent comme ne les prenant pas en compte. Finalement, est-ce que ça, c'est une question qui est beaucoup prise en compte et travaillée par les journalistes qui se penchent sur ces questions-là, ou est-ce que ça ne fait pas partie des points majeurs, finalement ?
Non, je ne crois pas. Effectivement, il y a un gros travail à faire autour de la question de la justice sociale. Les enjeux écologiques, aujourd'hui, restent essentiellement centrés sur, je caricature un peu, mais sur la protection de l'environnement, sur le climat, sur les catastrophes naturelles. Or, aujourd'hui, la transition écologique et sociale et solidaire qui est nécessaire touche d'autres aspects. Et il me semble que justement pour pouvoir échanger de manière beaucoup plus constructive avec les populations les plus précaires, c'est effectivement en allant s'interroger sur cette question de justice sociale qui doit émerger sans doute beaucoup mieux dans le traitement médiatique. Mais aujourd'hui, on se cantonne essentiellement à la question climatique.
Aurélien Brest, vous, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans la chronique d'Alexandre, ou qu'est-ce qui vous paraît un point d'appui particulièrement intéressant pour poursuivre la réflexion ?
En fait, c'est cette question d'échelle. Est-ce que on part du collectif ou est-ce qu'on part de l'individuel pour entamer la transition, en fait ? Et c'est vrai que, en fait, les comportements pro-climat, disons, sont des comportements qui sont assez difficiles à mettre en place, notamment parce que notre climat, en fait, il s'est énormément transformé. Nous, on est par exemple, il y a de plus en plus de personnes qui sont en ville, donc on perd un certain contact, en fait, avec la nature, ce genre de choses. On nous demande de nous projeter, en fait, dans 10, 20, 30, voire 50 ans. Et donc, en fait, planifier, c'est très difficile quand on n'a pas un retour concret, immédiat, en fait, sur nos actions. Donc, voilà, on sait que ce sont des comportements qui sont extrêmement difficiles à mettre en place. On peut manquer de motivation, on peut manquer de temps. C'est des choses qui sont vraiment pas faciles. Et donc, partant de ce principe-là, effectivement, il me semble que l'enjeu, il est vraiment de se situer d'abord au niveau collectif et aussi d'avoir une espèce d'exemplarité des personnes qui sont au pouvoir, parce que en fait, pour entamer ce type de comportement, il faut que les gens puissent avoir confiance, en fait. Il faut qu'on puisse se dire, ok, si je fais ça, alors ça va aller vers le mieux. Pour que cette confiance, elle fonctionne, il faut que les gens puissent se dire, les personnes qui me demandent de le faire savent où ils vont et sont, entre guillemets, dignes de ma confiance, quoi. Donc, je pense que c'est vrai que voilà, en fait, en psychologie, je parlais juste de un peu ce qu'on fait nous. En fait, en psychologie, on pourrait dire, du coup, ce qui compte, c'est l'individu, en fait. Il faut aller regarder la psychologie de l'individu, sa personnalité. Et en fait, non, ce qu'on remarque, c'est que ce qui est parfois le plus important, en fait, c'est les aspects situationnels, l'environnement, comment est-ce qu'on construit, en fait, collectivement les choses. C'est ça qui compte au départ. Donc c'est vrai que l'impulsion, pour moi, elle doit être à ce niveau-là. Et on reparlera après je pense, des questions des émotions, c'est très intéressant, mais c'est vrai que on parle d'adaptation, c'est les personnes les plus vulnérables qui auront le plus de difficultés à s'adapter. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir absolument prendre en compte.
Allez, on est dans le cœur du sujet. Vous pouvez contribuer à l'émission. Ça y est, le standard est ouvert. 04 72 38 20 23. C'est le numéro auquel Catherine vous attend et vous accueille pour passer à l'antenne. Et puis, j'accueille aussi Christophe Anus. Bonjour.
Bonjour. Désolé d'être un peu en retard.
Bah, bienvenue en tout cas. Je ne sais pas si vous avez pu entendre la chronique. Alors peut-être.
Non,
bah,
je suis arrivé juste à la fin de la chronique. Oui.
Voilà, donc on ne va pas vous demander de la commenter, mais non, avant de parler de la qualité, de la nature et du type d'information qu'on donne aujourd'hui sur les enjeux écologiques dans les médias, je voudrais qu'on fasse un petit point quand même sur la quantité et sur l'évolution. Alexandre le disait dans sa chronique, aujourd'hui les médias informent vraiment beaucoup sur ces thématiques-là, mais beaucoup c'est combien et en termes d'évolution finalement sur les années précédentes, bah, qu'est-ce qui a bougé en fait? Est-ce qu'aujourd'hui on informe beaucoup plus sur les enjeux écologiques dans les médias, Christophe Agnus?
Alors, on informe beaucoup plus, aussi beaucoup parce qu'on informait quasiment pas avant. Enfin, il faut tout est relatif, quoi. Donc, on avait fait une étude en 2019 à Reporter d'Espoir. On avait fait une étude sur effectivement, alors on s'était intéressé au climat, pas l'environnement, mais le sujet climatique. Et on s'était rendu compte que globalement, si on prenait la totalité des médias, d'abord juste comment nous avions fait, on avait pris la totalité d'un journal, on avait mesuré combien de centimètres carrés étaient consacrés à la problématique climatique. On avait fait pareil sur l'antenne télé, sur l'antenne radio. Et en 2019, le constat était que moins de 1% de l'antenne, enfin, ou de l'espace médiatique était considéré au sujet climatique. Donc c'était vraiment moins de 1%. Parfois c'était 0,19 dans certains médias. C'est-à-dire que c'est une moyenne pour moins de 1%. Donc c'était vraiment pas grand-chose. Alors aujourd'hui, bien sûr, on est largement au-dessus de ça, mais il faut voir qu'on part juste de très très bas. Alors et puis à côté, on l'informe de façon, on en parle de façon parfois bizarre, c'est-à-dire que quand on vous fait un sujet, on parle de la chaleur en plein été et qu'on vous le présente sur un bon côté en disant c'est formidable, on va pouvoir aller à la plage au week-end, c'est pas forcément la meilleure façon de parler du climat, quoi.
Donc ça, on va y revenir, mais voilà. Je voudrais qu'on reste un peu sur les chiffres. Florence Gault, Aurélien Brest, est-ce que donc on a vu d'où on vient, il y a 5 ans, on était à 1% grand maximum et plutôt moins, nous dit Christophe. Est-ce qu'on a des chiffres sur aujourd'hui ce que ça représente, le traitement médiatique de l'écologie dans les médias en général?
Alors il y a Climat Média qui récemment a publié ce chiffre. Le traitement médiatique de l'écologie représentait 3,5% des reportages traités dans les journaux télévisés de TF1 et France 2 en 2023. Climat Média donc ne s'intéresse vraiment qu'à ces JT-là parce que il y aurait vraiment beaucoup à faire et il faudrait un grand nombre de personnes pour pouvoir tout compter. Mais effectivement, on voit, comme le disait Christophe, on voit très clairement une évolution. Cet autre chiffre, le nombre de sujets a été multiplié par 7 en 10 ans dans la presse quotidienne nationale. Il y a vraiment du mieux. On traite ces sujets-là beaucoup plus qu'avant. Mais effectivement, comme le disait Christophe, on partait vraiment de très très bas.
On poursuit cette émission. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23 pour nous dire quel regard vous portez sur le traitement médiatique de ces enjeux écologiques. Puis dites-nous aussi peut-être comment vous vous informez sur ces enjeux-là. Et ce sera ma question suivante à vous trois qui nous éclairez ce matin. Comment les personnes s'informent majoritairement sur les enjeux écologiques? Est-ce que justement c'est par les médias généralistes, on citait TF1 France 2, ou est-ce que c'est plutôt par les médias spécialisés qui ont pas mal fleuri ces derniers temps? On peut citer du côté de l'écrit Vert par exemple, bon Reporter qui existe toujours, un nouveau qui arrive qui s'appelle Fracas Média sur les luttes écologiques, et puis les réseaux sociaux qui sont aussi une source sur ces thèmes-là. Quelle est la source principale, peut-être Christophe Agnus, pour s'informer sur ces enjeux dans le grand public?
Alors il y a deux aspects dans votre question. C'est quelle est la source la plus efficace, la principale, qui serait la principale, ou quelle est celle qui est le plus utilisée? Aujourd'hui, si on interrogeait, on se rend compte que la source principale des gens pour s'interroger sur les problèmes climatiques, c'est juste aucune. C'est-à-dire que la plupart des gens ne lisent pas, ne cherchent pas vraiment particulièrement à savoir des choses dessus. Donc malheureusement, vous avez cité Vert, vous avez cité un nombre de journaux ou Reporter et autres, auraient une audience bien supérieure à celle qu'elle est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils sont informés, gérés par les grands journaux ou les grands médias quand ceux-ci en parlent. mais la plupart des personnes ne cherchent pas d'informations supplémentaires, la grande partie du public. Maintenant, donc aujourd'hui, je vous réponds simplement que ce sont les, un peu statistiquement, sur les grands médias donnent l'information. Il y a beaucoup plus de gens qui vont lire, qui vont regarder un reportage sur TF1 que lire Vert ou que lire Reporter. Donc ça reste assez. Tous ces journaux-là, qui sont très bien faits hein, pour beaucoup, mais restent relativement marginaux dans le volume global de l'information. Donc maintenant, lesquels, moi j'ai pas de religion là-dessus. C'est-à-dire que si TF1, France Télévisions, Le Monde, Le Figaro, Libé se mettaient à parler de façon régulière, enfin Libé on parle pas mal des problématiques environnementales, ça serait parfait, quoi. Et après, aujourd'hui, celui qui serait peut-être le plus efficace, mais qui commence à le faire de plus en plus, c'est la presse régionale. La presse régionale, elle a un poids très important parce que c'est le journal du quotidien. Et selon les langues, la façon de parler, il touche les gens de façon absolument répétée, etc. Et ça reste la presse la plus de France. On oublie que le premier journal de France, c'est Ouest France. Hein. Le plus gros journal de France, c'est Ouest France. Donc aujourd'hui, malheureusement, je pense pas qu'il y ait une volonté massive de s'informer sur les environnements.
Ah, on vous a perdu, Christophe Anus, on va rétablir la connexion. Aurélien Brest ?
Oui, effectivement, c'est surtout à la télévision. Moi, c'est ce qu'on avait pu constater, en fait, quand on travaillait avec Laurent Cordonnier à la Fondation Descartes. C'est vraiment par la télévision que les gens s'informent le plus. Moi, il me semble que s'informer, ça prend du temps, c'est assez, c'est coûteux, je sais pas comment le dire autrement. Sur ces enjeux-là. Donc, en fait, je pense que c'est très bien justement d'avoir conscience des canaux en fait par lesquels les Français et les Françaises s'informent et essayer de s'adapter en fait à leurs habitudes. Et je pense que pour le coup, il me semble qu'à la télévision, il y a quand même ça a été dit, je crois, à un moment donné, il y a de plus en plus de reportages qui sont faits. Il y a quand même une montée en expertise en fait. On pourrait même dire ça comme ça, je pense. Avec des nouvelles générations de journalistes aussi, je pense, qui sont peut-être plus familiers avec ces enjeux-là. Donc, en tout cas, à ce niveau-là, il me semble que ça bouge quand même, et que les Français, je pense, les Françaises sont quand même davantage conscients et davantage informés sur ces questions-là.
Quel est le regard justement du public sur le traitement médiatique des questions écologiques? Vous avez aussi étudié ça dans l'étude auquel vous faites référence, Aurélien Brest.
Comment est-ce que vous pouvez répéter?
Quel est le regard du public sur la manière dont les enjeux écologiques sont traités dans les médias, en fait? Le regard critique, quoi. Enfin, est-ce qu'il est positif, négatif, et quelles seront les principales critiques qui peuvent être faites?
Ouais, d'accord. Oui. Alors ça, c'est une étude de très intéressante. D'ailleurs, j'encourage vos auditeurs et auditrices à aller regarder ça. C'est une étude de Laurent Cordonnier, qui était mon collègue à la Fondation Descartes. Donc moi, j'ai pas participé à cette étude, hein. C'est vraiment lui. Et c'est une étude très intéressante, et c'est vrai que ce qui montre en fait, c'est qu'il y a en fait, avec un sondage de Françaises et de Français, il montre que les principales critiques, en fait, elles sont de deux ordres et assez opposées en fait. Et c'est là où on voit que les médias sont dans une situation parfois qui est délicate. Il va y avoir ceux qui vont dire, mais en fait, il nous faut des gens qui vont dire, mais il nous faut plus d'informations sur le climat. Il faut axer sur les solutions concrètes. Il faut davantage de pédagogie, une montée en expertise, donc une certaine exigence en fait du public. Et de l'autre côté, il y a ceux qui vont dire, mais en fait, c'est trop anxiogène. On en parle un peu trop. C'est pas forcément la priorité. C'est un peu trop alarmiste. Vous voyez, il y a ces deux sons de cloche en fait qui existent. Alors le son de cloche alarmiste est un peu moins représenté. Hein. C'est pas la moitié des auditeurs et des auditrices qui pensent ça, mais ouais, c'est le problème avec les médias en fait. Vous êtes pris par différentes demandes contradictoires.
Florence Gault, sur ce que vient de dire Aurélien Brest, des choses à ajouter sur la réception par le public du traitement de ces enjeux?
Voilà,
en 1 minute 30.
Déjà, je confirme qu'effectivement, il faut aller lire cette étude que je cite extrêmement souvent de Laurent Cordonnier, mais parce que je trouve que, en tout cas pour nous médias, pour nous journalistes, elle est vraiment hyper intéressante, car effectivement, les Français estiment qu'on parle pas suffisamment du sujet. Dans le traitement, effectivement, trop à alarmiste, politisé aussi, militant, c'est ce qui ressort, et moralisateur sur ces sujets-là. C'est intéressant de voir comment les Français perçoivent, dès qu'on parle d'écologie, forcément qu'on est d'un certain bord politique, et ça se retrouve d'ailleurs dans un peu n'importe quel média, et puis que les médias ne parlent pas assez des solutions qui existent, et en traitant le climat de manière insuffisamment rigoureuse et scientifique. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois proposer des solutions, une approche sans doute un peu plus pédagogique, parce que ce sont des sujets compliqués et difficiles à comprendre, et puis avec une place pour la parole scientifique. C'est relativement intéressant de voir ce qui est attendu de cette communauté scientifique qui prend de plus en plus de place, et en même temps, là encore, il peut y avoir un sentiment un peu contradictoire, avec par moments une certaine défiance, comme on a pu le voir s'exprimer à l'égard des scientifiques au moment du Covid-19, par exemple.
Bravo, c'était pile la minute 30. On se retrouve dans une minute pour poursuivre les échanges. On accueillera un auditeur à l'antenne qui nous dira comment il perçoit justement la manière dont les médias traitent ces questions. Vous continuez de nous appeler pendant la pause au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Anne Kerléo sur RCF.
Comment informer à l'heure de l'urgence écologique? C'est notre question ce matin. Et pour nous éclairer en studio, on a la chance d'avoir Florence Gaud, journaliste indépendante qui travaille sur ces enjeux justement de la transition écologique et solidaire. Christophe Anus, qui est journaliste et éditeur et surtout, pour ce qui nous intéresse ce matin, président de Reporters d'Espoir, pionnier du journalisme de solutions. Et puis enfin, Aurélien Brest, qui est diplômé en psychologie cognitive et en philosophie des sciences, doctorant à l'université de Bordeaux. Et je propose qu'on accueille tout de suite un auditeur. C'est vous, Alban, qui nous appelez du Loir-et-Cher. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Eh ben, moi, je tenais à réagir à votre émission. D'ailleurs, bravo pour votre travail. Enfin, je trouve à chaque fois que c'est très constructif. Et je voulais justement réagir au fait que je connais pas exactement les chiffres, mais je crois que les médias qui sont principalement écoutés par les Français, doit y en avoir à peu près 9 sur 10 qui appartiennent à des milliardaires. Ça, c'est à peu près ça le chiffre. Et du coup, moi, ma question, c'est sachant que ces milliardaires... leur fortune est généralement construite sur la base de l'exploitation des humains et de la planète. Comment est-ce que les journalistes qui travaillent pour eux pourraient s'exprimer d'une manière libre et constructive sur ces sujets, quoi? Moi, je pense pas que ça soit possible. Et du coup, quand on parle de médias et d'écologie, faudrait savoir déjà de quels médias on parle. Et j'ai l'impression que souvent, les médias aux mains des milliardaires ne peuvent pas parler sainement de ce sujet, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Alban, pour votre question tout à fait claire. Christophe Anus, elle est pour vous. Qu'est-ce que vous répondriez à Alban?
Que ça dépend des médias. Il y en a effectivement qui auront plus de mal. Il y en a d'autres où il y a des chartes d'indépendance qui font que les journalistes arrivent à peu près à parler de ce qu'ils veulent. Donc on peut pas faire des généralisations. Vous avez une France Télévisions, qui appartient à l'État. Alors l'État évidemment, mais où dans lequel il y a une très forte indépendance de la rédaction parce que c'est une part d'histoire de ce média. Mais si vous regardez par exemple TF1 qui est propriété de Bouygues, TF1 a fait d'énormes efforts pour depuis quelques années et en parle beaucoup. Donc ça dépend vraiment de médias et de l'interventionnisme ou de la menace que effectivement ces milliardaires. Si vous prenez par exemple Le Monde, le groupe Le Monde, il y a une charte qui fait que les propriétaires n'ont pas le droit d'intervenir du tout dans le contenu. Donc c'est moins vrai dans d'autres médias. Donc c'est pas aussi binaire, quoi. Il y en a effectivement qui vont faire attention à surtout. C'est pas tellement de ne pas parler d'environnement, de ne pas parler. Le problème est surtout pour les propriétaires, c'est qu'on ne les mettent pas eux en cause. Donc on peut parler de beaucoup de sujets à condition qu'on ne mette pas le propriétaire en cause. Et là, je pense aux Échos, je pense à des journaux comme ça, mais ou à CNews ou etc. Mais c'est pas aussi simple que ça. On peut parler de problématiques environnementales et après effectivement vous avez des visions du monde qui sont pas les mêmes. C'était évidemment quand Libé et CNews n'ont pas la même vision des choses, ils vont pas en parler de la même façon. Mais par exemple Libé qui en parle beaucoup. Qui parle beaucoup d'environnement, beaucoup. Libé est propriétaire un des principaux actionnaires, c'est quelqu'un qui produit de l'énergie avec du charbon. Donc, et ils en parlent beaucoup. Donc, c'est pas aussi simple. Aujourd'hui, la problématique en plus, c'est quand on met en cause plus des politiques que ça va jouer, plutôt que juste de parler d'environnement et de solutions simples, etc., etc. D'autant que certains de ces milliardaires investissent dans des solutions qui peuvent, en termes de business, traiter les problématiques d'environnement. Donc, c'est un peu plus complexe que ça, je dirais.
À analyser finement, donc, Aurélien Bress, ce que vous faites dans votre travail, même si c'est autour de la psychologie, donc vous le disiez, on pourrait penser que c'est plutôt individuel, mais cette dimension plus globale, sociétale, existe aussi.
Si je peux juste rebondir, en fait, moi, oui. Là, ce qui m'intéresse beaucoup dans la question, en fait, qui a été posée, c'est ce que ça révèle, c'est un manque de confiance envers les médias de par, disons, la dépendance financière qu'ils peuvent avoir. Et on sait que c'est une question qui est très importante aujourd'hui, qui a été beaucoup traitée. Il y a eu une sortie de Mediapart assez récemment qui disait voilà, nous on est un journalisme entièrement financé par les lecteurs, ce genre de choses. Et en fait, c'est vrai que moi, en tout cas, voilà, sans vouloir juger, justement, ce qui est assez important, c'est de voir que peut-être qu'il y a une demande de la part du public d'une certaine indépendance financière des médias, qui est, je pense, extrêmement compliquée à mettre en place. Hein. Je dis pas du tout que c'est facile, mais en revanche, ça, c'est peut-être un enjeu pour que justement les gens puissent avoir davantage confiance dans la couverture médiatique de ces médias sur ces questions climatiques. Il me semble que ça c'est quand même assez important parce que il y a, comme a dit Christophe Agnus, il y a une couverture qui est faite, mais si cette couverture elle est pas perçue parce que on a l'impression qu'il y a un manque d'indépendance, alors c'est un travail qui est entre guillemets gâché parce que il est pas perçu en fait. Donc c'est une question qui est vraiment vraiment importante, hein, j'insiste, c'est cette question de la confiance.
Florence Gauche, vous vois opiner du chef sur cette notion de conscience.
Oui, bah clairement, j'anime régulièrement des ateliers d'éducation aux médias et des formations à destination des professionnels en quartier prioritaire de la ville, donc à destination des éducateurs en centres sociaux, en MJC, etc. Et quand on aborde la question de l'indépendance des médias, déjà, on y passe beaucoup plus de temps que ce qui est normalement calibré, d'où ce qui montre en tout cas l'intérêt des gens. Et effectivement, c'est ce qui ressort à chaque fois qu'on discute avec les gens et qu'on parle de notre métier de journaliste, des médias, c'est oui, mais est-ce que vraiment vous êtes indépendant? Est-ce que vraiment vous pouvez être objectif? Quand on voit que, effectivement, donc il y a ce chiffre qui circule beaucoup, qui n'est pas tout à fait vrai, mais que 90% des médias sont aux mains de 9 milliardaires. Et il y a clairement aujourd'hui un enjeu d'aller renouer un lien de confiance entre citoyens et médias, entre citoyens et journalistes. Et je crois que c'est à la fois d'être beaucoup plus transparent sur là où on parle. Et je crois qu'il y a un vrai enjeu de réaffirmer aujourd'hui ce qu'est une ligne éditoriale, de d'afficher les valeurs aussi portées par le média en question. Et après, à chacun d'entendre et de prendre ce qu'il veut, tout en défendant et montrant la démarche journalistique qui est faite. On peut avoir une ligne éditoriale. Le Figaro, c'est pas la même que celle de Libération. Ça n'empêche que dans ces deux médias, il y a une démarche journalistique qui est a priori honnête. Et donc, il y a un vrai enjeu de transparence et de faire découvrir aussi la manière dont se fabrique l'information.
Alors à côté de vous, Florence Gouy, il y a une quatrième intervenante qu'on n'a pas encore entendue. On va l'entendre juste pour quelques minutes, mais ça me paraissait intéressant ce matin d'entendre une jeune journaliste en devenir. Enfin peut-être, vous allez nous dire, Loulena Juillet, puisque c'est vous, bonjour.
Oui, bonjour. Merci pour l'invitation.
Vous avez écouté, donc vous êtes actuellement en formation, hein, vous êtes à l'ISCPA qui est une école de journalisme à Lyon. Vous avez écouté attentivement tout le début de cette émission. C'est intéressant que vous nous disiez qu'est-ce qui a résonné à vos oreilles dans le contexte justement de ce que vous vivez comme journaliste qui est en cours d'apprentissage.
Eh ben, beaucoup de choses, ça va être difficile de résumer, mais les deux points principaux qui ont particulièrement fait écho en moi, je dirais le rejet de l'écologie dont parlait Alexandre lors de sa chronique, le rejet de l'écologie que je ressens à la fois dans ma formation de journaliste auprès de mes camarades et à la fois, je dirais plus généralement dans mon quotidien, et la perte de confiance cruelle envers les médias et les journalistes. Mais justifiée, hein, je dis pas le contraire, ça n'est évidemment pas binaire comme le soulignait Christophe Anus, mais voilà, pour moi c'est cette perte de confiance qui me pose question, notamment parce que c'est probablement le métier que je veux exercer plus tard.
Alors vous dites probablement, alors d'une part le métier que vous voulez exercer plus tard, mais avec un fort accent sur justement ces enjeux écologiques.
Pour moi, ça coule de source dans le sens où ce sont des enjeux globaux et plus que nécessaires. Pour moi, ça fait partie de notre quotidien. On parle souvent d'avenir, pour demain, pour nos enfants demain, mais en fait, c'est dès aujourd'hui. Donc pour moi, ça fait partie de ce que je dois traiter, d'autant plus que, à mon sens, et évidemment, ça n'est que subjectif et ça n'est que mon point de vue, ces enjeux ne sont pas assez bien traités et pas assez traités dans les médias aujourd'hui. Donc forcément que je vais les traiter demain.
Et alors, est-ce qu'on est assez bien formé à ces enjeux quand on est dans une école de journalisme, en tout cas dans la vôtre? Alors, je ne sais pas si vous pouvez avoir un point de vue critique, c'est peut-être pas simple, mais...
Après, moi, je suis là pour dire la vérité, c'est le travail de journaliste avant tout. Je pense qu'on n'est pas forcément assez bien formé, voire pas du tout assez bien formé, dans le sens où on a plusieurs pistes, on a peut-être quelques cours qui nous incitent à nous en renseigner, mais à nouveau, selon mon point de vue, compte tenu de l'ampleur et de l'importance de ces enjeux, je pense qu'on n'est absolument pas assez formé.
Alors justement, je ne sais pas si c'est une bonne analyse, mais j'ai le sentiment que c'est peut-être pour cette raison-là que vous avez choisi de vous former aussi autrement et vous allez vous lancer dans une aventure, un grand projet. Je pense qu'on vous réinvitera pour en parler plus longuement, mais en quelques mots, qu'est-ce que vous préparez et pourquoi ?
Alors en quelques mots, je déteste parler de ce que j'ai pas encore fait, mais je vais parler donc à la place de Pierre et Elio, donc Elio mon frère et Pierre un ami en commun, et on se lance dans un tour d'Europe à vélo pour faire un film documentaire justement des différentes alternatives qui existent aujourd'hui en Europe. Et le but, c'est d'aller à la rencontre donc de ces alternatives. Il y a à la fois, ça peut être juste des associations, un éco-village, une école un peu différente, voilà, de toutes ces personnes en fait qui réfléchissent à comment habiter notre monde de demain autrement, de manière peut-être plus durable, plus juste, plus en lien avec le vivant, plus joyeuse peut-être aussi, parce que c'est aussi une part importante. Et le but, c'est d'aller à la rencontre de ces alternatives, de les filmer, de les interviewer, parce que nous, déjà, on en a besoin. Ça part vraiment d'un sentiment intérieur de, en fait, comment est-ce que je peux habiter cette terre? Comment est-ce que je peux prendre peut-être plus soin de cette oasis de vie qu'aujourd'hui, à mon sens, à nouveau, on détruit? Et d'aller filmer tous ces gens et d'en faire un film documentaire pour inspiré. Donc il y a une démarche un peu journalistique là-dedans, et c'est en ça que je dis que probablement je veux devenir journaliste. Mais après, comment est-ce que je pourrais habiter cette terre, comment est-ce que je pourrais participer un peu à cette construction d'un monde meilleur? C'est peut-être une vision un peu utopiste. Est-ce que c'est en tant que journaliste ou autrement? Je sais pas. Je pars avec beaucoup de questions et je pense que je vais en revenir avec encore plus de questions.
Et vous nous en posez aussi des questions à travers votre témoignage, et en tout cas vous donnez peut-être une piste. Avec vous, on entre dans, après le diagnostic qu'on a posé dans la première partie de cette émission, dans comment on peut faire maintenant avec ça pour avancer, comment on peut faire mieux traiter ces enjeux écologiques. Ce que dit Christophe Anus, est-ce que ça résonne aux oreilles du vice-président de Reporters d'Espoir, pionnier du journalisme de solution?
Oui, mais évidemment, parce que on ne traite pas. Elle a raison. Il y a une sorte de, enfin, ça a rien de s'inquiéter aussi sur le rejet de ce sujet et de vouloir présenter parce que ce qu'elle va faire, j'irai une autre solution désirable. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de faire ce que Cyril Dion appelle un autre récit, remettre en évidence que on peut être, ça peut être mieux, beaucoup mieux et beaucoup plus agréable autrement, parce que aujourd'hui on vit dans une société un peu, les médias sont pris dans une situation un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'on leur demande de parler d'environnement, ils le font, mais on voit des solutions totalement idiotes, style un reportage, j'ai vu ça, j'invente pas, sur un grand journal télévisé, un reportage sur une solution, parce qu'effectivement il y a un problème climatique, et à suivre le formidable week-end que vous allez pouvoir passer à Dubaï en faisant du 4x4. Donc, à un moment, il faut choisir un peu son camp, quoi. Il faut choisir ce qu'on veut. Et puis, moi, je voulais revenir aussi sur ce qu'on disait sur les médias, le désenchantement, les gens qui se désengagent. Moi, ça, c'est quelque chose, un sujet qui m'agace toujours. Je veux dire, pour moi, pas du tout sur le sujet lui-même, mais quand les gens me disent ça, parce qu'à chaque fois, je leur dis, OK, très bien, je comprends votre défiance, mais qu'est-ce que vous lisez? Quels sont les médias indépendants que vous soutenez puisque vous considérez que les autres sont achetés? Et la réponse, 90% du temps, c'est aucun. Donc, je dis à un moment, on a l'information qu'on mérite, et si les gens ne veulent pas faire d'efforts pour soutenir et s'abonner aux journaux qui sont indépendants, qu'ils considèrent comme indépendants, il faut peut-être faire aussi jouer sa part, quoi. Voilà. C'est trop facile de dire tous les journaux sont vendus et de pas soutenir ceux qu'ils considèrent n'être pas vendus. Voilà, ça c'est mon petit coup de gueule du moment.
Mais et puis c'est une piste aussi pour chacun peut-être.
Oui, c'est ça. Je veux dire que s'il y a des journaux qui sont totalement indépendants de la publicité, des grands médias, soutenez-les. Si vous considérez qu'effectivement ce sont ces gens-là qui apportent la vraie information, abonnez-vous. Or, regardez les taux d'abonnement de ces journaux-là en question, ils ne sont pas énormes. Donc voilà, donc ça c'est mon petit coup de gueule. Mais en tout cas, je considère effectivement qu'il y a une problématique dans les écoles, il y a une problématique globalement de formation à toutes ces solutions, en sachant que même les solutions, ce qui me désole un peu, c'est que trop souvent, on va s'attarder sur des petites solutions locales qui sont très bien, qu'il faut mettre en valeur, en oubliant que il n'y a pas d'environnement sur les solutions globales. Et les solutions globales sont des solutions politiques. Et ça, souvent, elles ne sont pas assez examinées en détail parce que c'est trop complexe. C'est un peu complexe et on ne prend pas le temps de regarder dans le détail ce que les grandes solutions qui pourraient faire les grands changements majeurs pourraient amener. Donc c'est un journalisme qui est complexe à faire.
Je pense, donc j'agis. Anne Kerléo sur RCF.
04 72 38 20 23, c'est le numéro auquel vous pouvez nous appeler pour contribuer à nos échanges ce matin autour du traitement médiatique des enjeux écologiques. Vous pouvez aussi nous écrire à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Avant d'entrer de plein pied dans ce qu'est vraiment le journalisme de solution, peut-être même qu'on en donne une définition, je voudrais qu'on s'arrête un instant avec vous Aurélien Brest à la question des émotions. On en a évoqué plusieurs depuis le début de l'émission, alors il y a la peur, l'angoisse même peut-être. Et puis deux émotions dont on n'a peut-être pas encore beaucoup parlé, c'est la tristesse qui peut être provoquée par la perte du monde qu'on peut observer et puis la colère aussi. Alors ces émotions-là, dans quelle mesure elles nous traversent, avec quelle ampleur face à ces enjeux écologiques et puis qu'est-ce qu'on peut en faire? Ça fait des grandes questions. Hein. Vous avez une heure.
Je vous remercie. En psychologie, en fait, on a une approche qui est de les émotions sont suscitées en fait par disons l'interaction de l'individu avec son environnement. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, une personne en interprétant son environnement peut avoir des réactions opposées d'une personne à l'autre, quoi. On peut la situation du changement climatique peut susciter de la tristesse chez une personne et peut susciter de la colère chez l'autre. Et après, à partir de ce constat-là, en fait, c'est vrai que quand on s'intéresse aux émotions dans cette perspective-là, on considère que les émotions ont une fonction. En fait, elles nous permettent de nous adapter, de trouver une réponse à l'interprétation qu'on fait de notre environnement. Et donc, c'est un peu schématique, mais on considère que certaines émotions vont nous pousser à davantage d'action et d'autres vont nous pousser à davantage de désengagement, on va dire. Donc typiquement, la tristesse, ça sera plutôt du désengagement, en fait, et la colère, plutôt de l'engagement. Sachant ça, les médias, les leaders politiques, en fait, instinctivement, ils le savent. Il y a des émotions qui sont plus engageantes que d'autres et qui permettent en fait de construire du lien, qui permettent de se projeter, ce genre de choses. Donc voilà. Je sais pas quoi dire de plus. En fait, c'est extrêmement vaste.
Oui, mais c'est beaucoup déjà.
Pour terminer, c'est vrai que en ce moment, en tout cas, il y a une question qui se pose réellement sur la question de l'émotion, de la colère, de l'indignation, notamment à travers les réseaux sociaux. On est dans un moment où les gens, dans une certaine mesure, sont en colère, et c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'ils veulent qu'il y ait des changements, ils veulent que ça bouge.
Je consonne, petit témoignage personnel pour une fois, dans les interviews récentes, toutes les personnes impliquées sur les enjeux écologiques m'ont parlé de la colère comme moteur incontournable pour elles. Pour les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par ces questions-là, vous pouvez aller chercher sur Internet, il y a une étude récente de scientifiques de l'université de Louvain qui a analysé justement ce que pouvait produire la colère à partir de ces enjeux. Florence Gault, je voudrais d'ailleurs, peut-être en lien avec les émotions, que vous nous donniez une définition claire et simple de ce qu'est le journalisme de solution. Le journalisme de solution pour les nuls, qu'est-ce que vous nous diriez ?
Eh bien, le journalisme de solution, c'est le fait de rapporter de manière rigoureuse et factuelle les réponses aux problèmes sociaux. En gros, au lieu d'investiguer les problèmes comme on le fait traditionnellement dans les médias, ben on va investiguer les solutions. Ça ne veut pas dire ne absolument pas montrer la réalité des choses et donc ne pas montrer ce qui ne va pas, mais c'est d'aller un petit peu plus loin en complétant l'histoire et en montrant les solutions, les initiatives qui sont mises en place et qui peuvent répondre à ce problème.
Christophe Agnus, vous consonnez à cette définition, vous qui êtes reporter d'espoir, faites ça depuis très longtemps.
Oui, non, c'est ça, et en fait, et c'est aussi le fait, c'est pour compléter, hein, j'ai rien à redire cette définition, c'est de convaincre aussi pour nous les journaux que quand ils parlent de problèmes, ils n'oublient jamais que les problèmes ont des solutions, voilà, et dans le vide. Comment ?
Oui. C'est vraiment les deux, c'est pas non plus le monde des bisounours où on va parler
que de... Ah non, c'est surtout pas.
Parce que voilà, c'est parfois le regard qu'on peut avoir sur le journalisme de solution.
Ouais, moi je dis, attention, ce n'est pas du journalisme de bonnes nouvelles, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas ça, parce que simplement, on va pas essayer de regarder les solutions s'il n'y a pas des problèmes en face. Et dans un papier de journalisme de solution, il est lié à une problématique. Il est lié à une problématique économique, sociale, etc. Il va être environnemental. Il faut qu'il soit lié. Il faut que la solution réponde à un vrai problème. Et donc, un vrai problème, on va effectivement faire du journalisme rigoureux derrière pour essayer de regarder, OK, il y a ce problème. Quelles sont les solutions, les pistes de solutions, etc. Et pas de les prendre en disant, ouais, c'est génial, etc. Il faut avoir un regard critique. Il faut avoir mesuré l'impact. Est-ce que cet impact est peut-être généralisé ou est-ce qu'il est juste local, etc. C'est du vrai journalisme et exigeant. Plus exigeant que juste de raconter qu'il pleut. De raconter comment on fabrique le parapluie, c'est quand même plus complexe.
Florence Gault, peut-être justement pour qu'on voit un exemple sur la fabrication du parapluie de traitement en journalisme de solution.
Alors ouais, juste avant, pour revenir sur un peu sur la méthodologie, pour que les gens essaient de comprendre en fait à quoi ça peut consister. En journalisme de solution, on dit qu'il y a 4 critères, donc il faut déjà que la solution soit une réponse à un problème, donc on va montrer comment cette solution fonctionne. On va fournir des preuves de résultats, de l'efficacité ou non. C'est une solution n'est pas obligée de fonctionner. On peut aussi montrer en quoi elle ne fonctionne pas. Donc, on va montrer des preuves. On va essayer d'apporter des éclairages sur la manière dont la solution a pu fonctionner, comment on peut aider les autres peut-être à faire de même, à dupliquer pourquoi pas la solution. Et puis, c'est surtout sur ce quatrième critère où généralement le bât blesse. On doit absolument montrer les limites ou les faiblesses de la solution. Et c'est en ça où justement, ce n'est pas un journaliste bisounours, feel good, dans lequel on va juste se faire du bien. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution parfaite, et on va aussi montrer les limites ou faiblesses de cette solution. Et c'est en ça, comme le disait Christophe, où c'est du vrai journalisme et du journalisme d'investigation réellement. Dans les exemples... Alors, il y en a plein. Je peux vous donner l'exemple du dernier épisode que j'ai fait pour mon podcast En un battement d'aile, où je me suis intéressée à l'agriculture biologique dans une période de crise où la demande est beaucoup moins présente de la part des consommateurs pour ce type d'agriculture. J'ai essayé de voir comment, en fait, les agriculteurs, notamment dans la foulée des mobilisations de ces derniers mois, comment des agriculteurs bio réussissaient à s'en sortir et à faire en sorte de se trouver des débouchés, de voir comment ça fonctionnait. Donc, je me suis intéressée à une coopérative paysanne, 4 fermes qui se sont associées pour créer une fromagerie, Altermont, qui se trouve dans les monts du Lyonnais, entre Lyon et Saint-Étienne. Et je suis allée voir comment ce collectif arrivait à fonctionner, comment ils avaient pu travailler main dans la main ensemble pour produire leur propre fromage, s'offrir des débouchés, notamment dans la restauration collective, et réussir à fonctionner. Donc voilà un exemple parmi tant d'autres.
Bon, on aimerait bien en donner plein, mais il faut qu'on aille au standard quand même pour... Merci d'ailleurs à tous les auditeurs qui nous ont envoyé des messages, on n'a pas eu le temps de tous les répercuter, puis en l'absence de Melchior, c'est un peu plus compliqué. Mais on va accueillir un auditeur, c'est Patrick qui nous appelle de Clermont-Ferrand, bonjour à vous.
Bonjour, je suis peut-être un petit peu en retard parce que j'écoutais l'émission et quand j'ai appelé la dame de l'accueil, très gentille, m'a permis de prendre la parole, mais je voulais parler sur les émotions, parce que vous en parliez là, à un moment donné.
Dites-nous.
Et en fait, j'ai des grands-enfants, enfin, et lorsqu'ils étaient plus petits, je les amenais promener dans les prairies, les champs, enfin, bon, on voyait beaucoup de lapins, des oiseaux, enfin bon, c'était assez magnifique, et donc, depuis quelques années, là, comme ils ont bien grandi, on y retourne de temps en temps, et le plus grand me disait, mais papa, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus grand-chose, on voit moins de lapins, enfin. Et donc, cette émotion de tristesse m'a fait prendre conscience, effectivement, que les jeunes étaient touchés par cette espèce de panique, actuellement, qui les prend tous les uns les autres, là, sur le problème de l'écologie, quoi, et de la peur qu'ils ont, effectivement, d'une terre qui disparaît sous nos yeux. Et c'est une émotion de tristesse et en même temps de colère, parce que je me promène moi aussi, je vois des cartouches de partout là dans les champs, donc ça dégomme de partout. Et en fait, je me dis que ces jeunes qui sont très tristes ou très en colère, il doit y en avoir pas mal, on les voit jamais dans les médias. Dans les médias, on voit jamais ces jeunes parler, clamer leur tristesse ou leur colère, puisque ça parle que de fric, d'argent, d'économie dans ces médias-là qui tournent en rond.
Merci Patrick, parce qu'on arrive au bout de l'émission, j'aimerais qu'on ait le temps de vous répondre. Et peut-être, c'était pas prévu, mais Lou, vous êtes toujours avec nous, vous êtes donc jeune étudiante en journalisme, je vous voyais réagir assez fort à l'intervention de Patrick.
Bah complètement, ça fait écho en moi, dans le sens où on parle d'émotion, on parle de colère, de tristesse, évidemment que c'est ce qu'on ressent. Nous en tout cas, je reviens juste sur le projet Demain c'est mieux qu'on mène avec mon frère et un ami en commun, on a tous les trois, 21-22 ans, donc on fait partie de ces jeunes en colère et tristes, et de toute façon, la colère et la tristesse sont souvent assez liées. Et bon, bah, du coup, ça contredit un petit peu l'intervention de Patrick qu'on entendait à l'instant, dans le sens où, bah, aujourd'hui, on m'entend parler dans un média et peut-être qu'on entend un peu ces jeunes. Et moi, en tout cas, pour ma part, je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Que c'est assez connu, quoi, je veux dire, qu'il y a de la tristesse et de la colère, et nous c'est en tout cas ce qu'on veut un peu contrecarrer avec Demain c'est mieux, qu'on part du postulat en fait que oui, je veux dire, maintenant on sait que 8 Français sur 10 sont au courant de l'urgence climatique, et bah qu'est-ce qu'on fait en fait aujourd'hui, et après c'est partir plus, nous on essaye de contrecarrer cette colère, de la prendre et de la transformer un peu en espoir, mais pas en espoir passif, en espoir actif, de garder cette colère, cette envie de changer les choses, et de donner de l'inspiration, de montrer ce qui se fait, de se dire, ok, peut-être que ça peut créer des étincelles dans les personnes qui regarderont probablement le film documentaire.
Alors, je vois les uns et les autres réagir. On arrive au bout de l'émission, mais justement, je voudrais vous donner la parole à chacun pour, avant de se quitter, peut-être nous laisser avec un message aux auditeurs, auditrices, peut-être une clé pour leur dire comment on peut avancer aussi du point de vue du récepteur, quoi, pour bien vivre le traitement des enjeux médiatiques et peut-être y contribuer, Christophe Anus.
Alors moi, je dirais juste deux choses. En réaction à ce que vient de dire.
En 30 secondes.
Oui, c'est que le journaliste de solution, on l'appelle aussi journalisme qui donne envie d'agir. Donc voilà, ça donne envie d'agir, de voir ce qui se passe. Et l'autre chose, c'est il faut lire des médias et soutenir les médias que on considère les bons médias et les indépendants. Voilà. Donc c'est tout ce que je vais vous dire, c'est journalisme qui donne envie d'agir et lisez des médias.
Merci. Aurélien Brest.
Eh bien, c'est assez difficile comme ça. Moi, je dirais, je sais que ça peut être très coûteux, ça peut être très difficile, très long. On n'a pas forcément envie, après une journée de travail, en fait, d'aller faire l'effort, d'aller chercher de l'information et tout ça. Et je sais que c'est pas simple. Il y a des grandes inégalités sur ces questions-là. Mais voilà, j'espère que les gens vont trouver cette motivation-là et vont garder une certaine espérance, surtout.
Florence Gault.
Et même chose que Christophe, je dirais, s'il y a des médias que vous aimez, que vous avez envie de continuer à lire, si vous voulez effectivement voir des médias indépendants, bah, soutenez-les. C'est là que vous, citoyens, vous pouvez faire quelque chose. C'est là de ce qui relève en tout cas de votre responsabilité. Et après, la petite lueur d'espoir, c'est qu'il y a plein de médias qui se forment, il y a plein de journalistes qui se forment aujourd'hui à ces enjeux-là. Et il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger en ce moment. Donc, il y a de l'espoir.
Merci à tous les trois. Allez visiter le site de Reporters d'Espoir. Allez aussi découvrir le podcast En un battement d'ailes. Allez lire peut-être ou soutenir la revue Fracas, qui est la nouvelle arrivée bientôt autour des luttes écologiques. Merci beaucoup à tous les trois, à tous les quatre. Merci Lou aussi d'avoir participé à cette émission. Dans quelques instants, on va retrouver Melchior Gormand. C'est une rediffusion d'une émission consacrée aux fake news, notamment en matière d'écologie. Excellente journée à toutes et à tous à l'écoute d'RCF.